Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La corruption priverait chaque année les économies en développement de quelques 1000 milliards de dollars, soit 603 000 milliards ou 603 billions de francs CFA, selon Global Financial Integrity. De plus en plus, les technologies de l'information et de la communication TIC sont utilisées pour faire reculer ce phénomène. Au Mali, il y a par exemple l'application Kafoko de Mali Justice Project et l'Aïdou de Agicad Mali. Comment donc ces technologies peuvent-elles contribuer dans la lutte contre la corruption au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous recevons Tidiane Togola, directeur de la Fondation Twindi, Abdoulaye Guindo, coordonnateur de la plateforme Bembéré, et Adam Diko, directrice exécutive de Agicad Mali. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, téléspectateurs et auditeurs de Studio Tamani, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Tidiane Togola, cette corruption qui est devenue un phénomène mondial aujourd'hui au Mali, quelle est la situation selon vous?
Merci beaucoup, M. Touré. La corruption, d'une manière générale, si on considère le cas malien, on a plus l'impression que c'est devenu la norme et n'est pas courante. C'est ce qui est devenu l'anomalie dans le contexte. Si on regarde le contexte malien, c'est vraiment ça l'image réelle quand on veut analyser le cas malien. Et si on essaie de constater d'une manière générale au niveau de l'administration, la corruption, elle est devenue monnaie courante. Je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de donner des chiffres, parce que moi, je pense que les chiffres qui sont donnés au jour d'aujourd'hui sont nettement en dessous de ce qui peut exister, et tellement que la corruption est devenue élémentaire, que ce soit au niveau de la circulation ou que ce soit même au niveau du système judiciaire et même au niveau du système sanitaire ou éducatif, on a la corruption qui est devenue une situation extrêmement compliquée.
603 000 milliards qui disparaissent chaque année à travers le monde. Au Mali, est-ce que vous êtes inquiété par la situation?
Bien sûr, au Mali, la situation est plus grave. Comme Tidiane l'a dit, au Mali, tu as l'impression que la corruption est institutionnalisée. Celui qui ne corrompt pas, c'est lui qui est, au fait, une personne atypique dans notre société. C'est devenu tellement banal et même légal dans l'administration que même des gens qui sont payés pour un service qu'ils rendent, il faut les soudoyer pour qu'ils puissent encore faire ce service. Donc la corruption au Mali, c'est le facteur numéro un, selon moi, même du chômage.
Est-ce que ça concerne seulement les riches? Parce que généralement, au Mali, on estime que ce sont les riches qui sont les corrupteurs.
Non, pas seulement les riches. Parce que comme Tidiane l'a dit, par exemple, dans la circulation, ceux qui se font prendre en infraction sur les motos de Jakarta, ce ne sont pas au fait des riches, c'est des Maliens moyens, mais qui se disent, je n'ai pas peur d'enfreindre la loi parce que tant que je peux glisser 1000 francs aux policiers. Même regarder les vignettes, les gens refusent par exemple de se mettre en règle en pensant qu'ils peuvent acheter les policiers. Et dans l'année, ils ne font pas le calcul de ce qu'ils donnent dans la corruption et ce qu'ils pouvaient mettre dans les papiers en se mettant en règle. Donc ce n'est pas seulement au niveau des riches, c'est dans tous les segments de la société. Même, c'est une anecdote, même dans les cimetières aujourd'hui, j'ai vu des gens corrompent le gardien du cimetière pour pouvoir passer une heure impossible. C'est dans tous les secteurs, dans tous les segments. Pas seulement une question de riches. C'est vrai que peut-être au niveau de l'administration publique, c'est cette corruption qui tue le plus. C'est-à-dire les deniers publics qui sont détournés. Mais la corruption, c'est pas une histoire de riches et de pauvres au Mali.
Sans corruption, le Mali est-il réellement un pays pauvre?
Eh bien, déjà, il faut considérer la richesse. Il faudrait bien réfléchir à ce qu'on appelle la richesse. Le Mali a énormément de potentiel et la corruption nous détruit véritablement. C'est évident. Mais je pense aussi que c'est notre opacité et notre laxisme qui aussi contribuent à aggraver la situation. Maintenant, le faux semblant. Le fait, par exemple, de considérer que faire donner la monnaie parce qu'on a quelqu'un a rendu un service, que cela doit être gentil ou pas gentil, dès lors que ça crée une confusion dans l'entendement de la personne, c'est tout ça qui aggrave la situation de corruption. Donc moi, ce que je pense, le Mali n'est pas un pays pauvre, le Mali n'a jamais été un pays pauvre, et quand on veut aussi réfléchir la richesse par rapport à la corruption, il faut simplement dire que le Mali est en train d'être pauvre par la corruption et par la mauvaise interprétation de qu'est-ce qu'être correct, gentil, ou qu'est-ce qu'être corrupteurs ou personnes méchantes.
D'accord. On parle toujours de lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez qu'au Mali, il y a réellement une lutte contre la corruption ?
Bon, il y a les instruments qui sont là pour lutter contre la corruption, mais il n'y a pas une volonté politique de mettre en œuvre ces instruments. Vous savez, on a la CASCA, on a le bureau du vérificateur, on a les missions d'inspection, on a tout le dispositif pour lutter contre la corruption. Mais, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, on est tellement corrompu que même ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces instruments pour empêcher la corruption sont aussi corrompus.
Donc, ce qui donc fait des corrompus sont choisis pour lutter contre
la corruption. Mais une anecdote, moi je me rappelle d'un procès où un juge pris pour corruption, au même moment où on le jugeait, dans le tribunal, au même moment, des gens étaient en train de corrompre des juges pour laisser passer des dossiers. Parce que et les gens n'ont plus peur, au fait. Et puis, c'est comme Tidiane l'a dit, quand on dit à quelqu'un que tu as été pris en tentant de soulever quelqu'un, ce n'est plus une honte, quoi. Ce n'est pas un drame. Donc, ce qui fait que les gens n'arrivent plus à efficacement lutter, parce que ceux qui sont chargés de lutter, de mettre en œuvre ces instruments, doivent et sont corrompus. Je prends l'exemple de l'ancien procureur Tesuge qui disait au Mali, on ne peut pas lutter contre la corruption de cette façon. Lui, il propose qu'on mette en place des instruments qui empêchent même les gens de prendre. Quand ils prennent, c'est fini, on ne peut plus le récupérer. Maintenant, comment faire pour que les gens ne prennent plus? Peut-être la solution, c'était avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, où il fallait en amont, comment on appelle, déclarer ses biens. Mais on a vu comment l'Oclier a été et s'aborder, parce que c'est encore et la corruption, parce que ceux qui étaient censés aller déclarer les biens, entre guillemets, étaient peut-être se reprochaient des choses, ils ont décidé d'aller en grève, ils ont décidé de paralyser l'administration, et les autorités aussi, peut-être aussi quelque part, ne se sentant pas blanc, on demande à l'Oclier de tout arrêter, donc ça a pris un coup.
Des corrompus choisis pour lutter contre la corruption souvent. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue de Guindou ?
Moi, je pense qu'initialement, quand on les prend, c'est parce qu'on estime qu'ils ne sont pas corrompus. Mais ce que Ablaye dit est vrai, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, une fois sur place, sont rapidement tentées. Quand on prend un jeune fonctionnaire qui vient d'intégrer la fonction publique, qui a beaucoup de rêves, pour son pays, qui est vraiment motivé et tout. Il vient, il rentre dans un système qu'il veut, où il veut véritablement contribuer. Et c'est ce système qui est rempli de personnes qu'on peut dire vraiment corrompues, qui vont commencer à transformer ce jeune fonctionnaire qui, lui, à un moment donné, il faut qu'il émerge, il faut qu'il vive, il faut qu'il se crée une place. Parce que forcément, c'est un jeune, il doit avoir des ambitions. Donc, s'il n'est pas très fort, il va finir par être corrompu. Et s'il se rend par exemple compte que c'est par la corruption qu'il émerge et qu'il se rend compte que c'est par le détournement des comportements qui ne sont pas bien, que c'est par ces chemins qu'il émerge, alors il va émerger par ses voies. Et une fois qu'il sera au sommet, pour se maintenir, qu'est-ce qu'il fera? Il va corrompre. Et quand il sera ministre, il sera corrupteur. Quand il sera député, il sera corrupteur. Quelle que soit la fonction qu'on lui donnera.
On voit même souvent que c'est la famille qui dit à certaines personnes qui veulent les choses selon vous qui sont nommées, c'est maintenant que vous devez être riche.
Exactement. Donc moi, je pense que, évidemment, c'est beaucoup souvent plus complexe que même l'individu. C'est dû souvent même au système qui est tellement... qui présente tellement de problèmes aujourd'hui que finalement, on est dans le cas où la corruption est devenue ferme. Mais il faut retenir quelque chose qui est extrêmement important. Dans le contexte malien, on a des actions qui sont mises en place, qui sont là pour lutter contre la corruption. Et récemment, on voit tellement d'actions de la part du ministère de la Justice. C'est encourageant, c'est très encourageant. Mais il faut qu'on puisse maintenir le cap. Et l'autre élément, c'est aussi, il y a un triangle là, quand on veut lutter contre la corruption. Il faut réussir, à couper tout ce qui est opportunité de corruption. Il faut mettre des systèmes de contrôle de corruption. Malheureusement, au Mali, on a des systèmes pour contrôler la corruption, mais l'opportunité de création, de bloquer la corruption, on n'a pas mis un dispositif qui permet de bloquer cette opportunité. Et troisième élément, il faut avoir le courage de sanctionner, il faut avoir le courage de dénoncer. Et ici, on ne veut pas dénoncer. Tu dénonces quelqu'un, immédiatement, c'est toi qui deviens la méchante personne. ou en tout cas, c'est toi qui vas tout de suite être mis marginalisé. Donc, ce que je pense, c'est déjà qu'on réussisse à mettre un triangle comme ça et qu'on le respecte, et également que ceux qui sont en train de monter, qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent réellement exceller sans faire de la corruption, quoi.
Merci, Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle de corruption. Vous êtes directrice d'une association qui est pour la bonne citoyenneté. Une personne corrompue ou une personne corruptrice plutôt, est-ce que c'est un bon citoyen ?
Non, du tout. Du tout. Et quand nous prenons le rapport qui a été publié sur la lutte contre la corruption, on a vu qu'au Mali, 9 personnes sur 10 sont soit victimes ou témoins de corruption. Donc ça veut dire que la corruption au Mali est prise comme quelque chose de normal, quelque chose de légal. Nous avons vu que tous les secteurs sont touchés. Du secteur de la gouvernance jusqu'au secteur de l'éducation, d'accès aux services sociaux de base. Dans le comportement de tous les jours des Maliens, on a vu que la corruption quand même est devenue quelque chose de normal, de légal. Et voilà pourquoi certains citoyens s'adonnent à ces actes-là, pensant que peut-être ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture.
Et quelle est la place accordée aujourd'hui aux nouvelles technologies dans la lutte contre la corruption au Mali ?
Alors, de plus en plus, nous avons au Mali des plateformes quand même qui émergent pour la lutte contre la corruption, parce qu'il faut reconnaître que le changement peut venir qu'avec les jeunes. Et l'outil le plus utilisé aujourd'hui par les jeunes, c'est le numérique. Donc, de plus en plus, il y a des initiatives qui sont prises pour développer ce secteur-là, afin que ça puisse contribuer à la lutte contre la corruption. Et je rejoins Tidjani quand il parlait tantôt de la dénonciation. On a vu que les numériques quand même permettent de dénoncer en gardant l'anonymat ou en gardant un certain quand même niveau de protection de l'individu, que quand on doit aller au niveau du tribunal et autres, surtout qu'il n'y a plus de confiance entre les citoyens et ces institutions qui sont là pour lutter contre la corruption ou pour prévenir la corruption. Donc de plus en plus, ces initiatives numériques sont en train d'émerger et ça permet aux jeunes non seulement de s'imprégner de ce secteur qui est la lutte contre la corruption, comment le faire, mais aussi de l'utiliser, parce que tous les jours nous avons nos téléphones, nous avons nos ordinateurs, donc de l'utiliser pour devenir des citoyens actifs, notamment en dénonçant ou en prévenant quand même les cas de corruption.
Guindo Diko parle de numérique et de jeunes, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces technologies sont suffisamment prises en compte par les autorités dans la lutte contre la corruption ?
Au fait, c'est ça, quand Titan parlait de triangle, il faut que ça soit pris en compte. Vous voyez, les pays aujourd'hui qui sont exempts dans la lutte contre la corruption ont combiné le capital humain, l'intégrité des hommes, associé aux nouvelles technologies de l'information. Quand les choses sont informatisées, immédiatement, ça met fin à la corruption. Et voilà pourquoi, dans l'administration publique, depuis plus de 10 ans, l'État essaie d'informatiser certains secteurs, mais les utilisateurs, ou bien soit les acteurs de ces administrations sont réticents à l'introduction de ces nouvelles technologies, parce qu'ils savent que ça va mettre fin à la corruption. Donc il faut obligatoirement que l'État aujourd'hui arrive à intégrer les nouvelles technologies dans la gestion. Tant que l'argent sonnant et trébuchant circule, il y aura toujours la corruption. Mais quand c'est des trucs, des versions électroniques, ça permet de ne pas faire circuler l'argent dans la main. Regardez par exemple le cas aujourd'hui des impôts. Aujourd'hui, la direction des impôts est capable de dire à chaque directeur de publication d'un journal que durant 12 mois, tu as signé par exemple 20 contrats qui t'ont apporté 40 millions. Et voici ce que tu dois payer à l'État. Autrefois, ce n'était pas le cas. Donc les journalistes partaient eux-mêmes déclarer ce qu'ils avaient gagné. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement un processus qui a été informatisé, les contrats. Donc aujourd'hui, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut obligatoirement, inclure l'aspect nouvelle technologie de l'information.
Obligatoirement l'inclure. Mais qu'est-ce qui bloque le fait de pouvoir inclure ces nouvelles technologies dans la lutte contre la corruption au Mali ?
Juste avant de répondre à ça, je voudrais faire une petite contribution sur le premier élément de leur usage. Moi, je pense que utiliser les technologies pour lutter contre la corruption se fait à différents niveaux. Côté citoyen, côté administration publique, il faudrait que ça se fasse à différents niveaux. Et il faudrait également qu'on crée suffisamment de ponts pour que les différents acteurs puissent véritablement, à un moment donné, pouvoir comparer leurs informations. Si on prend le cas, par exemple, du ministère des Finances, on publie régulièrement tous les contrats. Il n'y a pas de contrat qui n'est pas publié sur la plateforme du ministère des Finances. Mais le souci principal est que quand ces informations arrivent, c'est pas des informations comestibles par le citoyen. Tu mets des tonnes de milliards, des tonnes de chiffres et tu veux qu'un citoyen lambda puisse comprendre ces chiffres. Il ne sera pas capable de comprendre ce chiffre-là. Donc, il faudrait qu'on pense désormais aussi que l'administration, ok, en amenant certains outils numériques, que ces outils soient aussi comestibles par les citoyens. Ou que, par exemple, des acteurs qui sont dans le monde des médias, tels que des journalistes, qui ceux-ci soient spécialisés sur le journalisme des données, par exemple, qui les permettront de pouvoir utiliser les outils technologiques pour pouvoir faire le point et ensuite détecter par exemple les cas de corruption ou en tout cas des cas suspects. Maintenant, au niveau aussi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'Ablaï disait sur la dématérialisation de l'argent. Moi, je trouve que c'est très dommage que nous continuions d'utiliser l'argent liquide pour faire nos courses. Beaucoup de personnes vont toujours nous dire « oui, il n'y a pas la couverture », mais justement, c'est en dématérialisant que la couverture Internet, que les autres éléments qui sont là vont devoir suivre avec une certaine vitesse. On ne peut pas dire qu'on retarde quelque chose parce que, voilà. Donc, moi, c'est que je pense qu'il faut dématérialiser le système, il faut dématérialiser les prestations, que ce soit les prestations avec les policiers et tout. Et l'autre élément, le numérique, ce n'est pas juste les logiciels, c'est aussi, par exemple, des caméras. Aujourd'hui, il y a des lois qui existent qui nous disent, oui, protéger la vie privée. Mais parfois, si tu prends le cas contexte des policiers, ils nous disent, ils viennent, ils prennent l'argent dans ta main. Ou ils te sifflent. Mais regardez le cas, par exemple, des États-Unis. Comparaison n'est pas raison, mais ce qu'ils font là-bas n'est pas impossible ici. Un véhicule de policier qui s'arrête, il doit filmer tout ce qui se passe. Dans notre contexte, qu'est-ce qui se passe? Le policier, il s'arrête derrière. Toi, tu dois quitter ton véhicule pour aller lui le rejoindre. Alors, c'est lui qui doit venir et tout ce qui se passe doit être complètement filmé. Donc, moi, ce que je pense, il y a ce volet. Il faudrait qu'on puisse, au niveau de l'administration publique, qu'on puisse mettre suffisamment de lumière et au niveau maintenant du citoyen, qu'on protège bien évidemment les citoyens, protéger la vie privée du citoyen qui a plein droit de dénoncer. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, moi, je pense que c'est d'abord la conviction que par les technologies, on peut faire ça. Ça, je crois que c'est le premier souci. Les gens pensent qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint un niveau de maturité qui nous permet d'utiliser les technologies pour lutter contre la corruption. Or, on a vu les preuves tous les jours qu'on atteint ce niveau. Quand tu regardes, il y a tellement de cas de corruption qui ont été dénoncés sur les réseaux sociaux et les acteurs concernés ont été poursuivis justement par des blogueurs, par des associations de jeunes. Et au niveau de l'administration, il y a des outils technologiques qui sont en train d'être utilisés, qui permettent aussi de lutter. Donc, déjà, il faut croire au fait qu'on peut le faire. Deuxième élément, il faut avoir le courage de le faire. Il faut vraiment avoir le courage de le faire et d'affronter. Parce que si on apporte les technologies, ça veut dire qu'on décide de bouleverser le système. Et quand on décide de bouleverser le système, cela signifie qu'on amène un changement. Et donc, tout changement entraîne la résistance, des choses comme ça. Il faut éduquer les gens progressivement, apporter les outils, et les montrer le bénéfice. Il faut que les gens voient le bénéfice de l'apport des technologies. Si on est capable de dire, ok, payez votre vignette à la banque, ne payez pas à la mairie, ne payez pas à tel endroit, maintenant, et que régulièrement, il y a un dispositif intermédiaire qui dit, voilà le nombre d'argent qu'on a reçu, et voilà le nombre de motos qui existent, voilà quel est l'écart, ça va bien donner.
D'accord. Mais certains craignent également la piraterie qui pourrait être un des inconvénients du numérique.
Bien sûr, on peut mettre des garde-fous. Lorsque on veut mettre en place un système, c'est un tout. Au fait, il y a la sécurisation du système, il y a des experts en sécurité, en cybersécurité. Même si c'est vrai qu'il peut y avoir des failles souvent, mais c'est tout ce dispositif qui va... Au fait, c'est un tout. C'est comme j'ai pris le cas de la CANAM, par exemple, qui aujourd'hui est en train d'informatiser les cartes avec la digitalisation. Mais c'est tout un système, au fait. Au fait, il y a des experts en sécurisation de ces cartes, il y a des boutons de lecture. Donc, si on veut informatiser, comme on appelle l'administration, pour lutter contre la corruption, c'est tout cet élément qui va ensemble. Et je pense que si on le veut, on a les moyens de le faire. Parce que tout cet argent qui est dilapidé dans la corruption peut nous permettre de mettre en place un système informatique qui puisse nous permettre de réduire au moins à 10% la corruption. Et si on réduit la corruption à 10%, l'argent qui reste peut permettre de créer beaucoup d'autres boulots pour les jeunes qui sont au chômage.
A-t-on réellement les moyens humains, les moyens financiers pour pouvoir informatiser l'administration malienne?
Je pense que les moyens sont là. Ce qui manque, c'est surtout la volonté politique qui manque. Comme je l'ai dit, au Mali, 9 personnes sur 10 sont soit victimes ou acteurs de la corruption. Ça veut dire que la corruption profite beaucoup plus à des gens qu'est le contraire. Donc du coup, pour ça, il faut une volonté politique assez audacieuse pour pouvoir s'attaquer à ce secteur-là. Vous savez, dans notre administration, je ne dirais pas que l'administration est complètement corrompue, pourrie, mais quand même, il y a une grande partie qui profite de ce secteur de la corruption. Donc du coup, pour que ces éléments, notamment la digitalisation, numériser ces secteurs et tout, pour que ça soit une réalité, il faut que le boom vienne au niveau des citoyens. Maintenant, au niveau de ces citoyens, la plupart de ces citoyens aussi sont entretenus par des gens qui pratiquent la corruption. Aujourd'hui, quand vous sortez, quand Sinsi Koulibaly avait annoncé la liste des gens les plus corrompus, il y a certains qui avaient plus peur, parce qu'il ne faut pas que je retrouve le nom de mon père ou de ma mère ou de ma tante, et ainsi de suite, parce que chacun d'entre nous, on est conscient qu'effectivement effectivement, nos parents qui sont dans l'administration ou autres ne sont pas aussi clean que ça. Et tout le monde, je ne dis pas tout le monde, mais la majeure partie quand même de la population avait plus peur de ne pas voir le nom de quelqu'un de sa famille, parce que nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas clean dans ces pays. Donc, il faut une volonté politique assez audacieuse pour pouvoir s'attaquer à ce secteur-là. Sinon, les moyens humains, les moyens matériels, et il y a même des partenaires, des PTF qui sont prêts, qui encouragent l'État à aller vers ça, qui sont prêts à accompagner l'État techniquement et même financièrement à aller dans ce secteur. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté politique audacieuse, tant qu'il n'y a pas cette honnêteté dans la gestion des affaires publiques, ça va être vraiment difficile qu'on puisse parvenir à ces niveaux.
Je prends juste l'exemple. D'où viendra cette volonté? Du moment où vous le dites tout de suite, la plupart des gouvernants sont corrompus. Les citoyens, eux également, ça ne les arrange pas, certains. Donc, qui est-ce qui va amener cette volonté au sein de l'administration?
Alors, comme Tidjane l'a dit, il faut pouvoir montrer aux gens les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire l'avantage que quand le pays n'est pas corrompu, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Quand le citoyen est bien conscient de ça, c'est le citoyen qui peut amener ce boom de changement. Ceux qui sont dans les affaires, en fait, vous savez, au Mali, les hommes sont plus forts que le système. Quand on publie un rapport et qu'on dit qu'une personne a pu détourner plus de 3 milliards, 4 milliards, nous, ce qui nous font peur, ce n'est pas le nombre de milliards, au fait, volés, mais qu'une seule personne arrive quand même à profiter d'un système jusqu'à voler autant de milliards sans pour autant que les gens ne se rendent compte. C'est ce qui nous montre maintenant la faiblesse et les failles de notre système. Donc, nous sommes toujours en train de gérer les conséquences sans pour autant nous attaquer à la cause des problèmes. La cause des problèmes, c'est quoi? C'est ce système qui est entretenu, qui est mis en place par ces hommes qui connaissent les contours et les alentours de ce système-là et qui l'entretiennent. Donc, pour que ça puisse changer, il faut que le boom vienne au niveau des citoyens. Et pour ça, il faut sensibiliser les citoyens. Je prends juste l'exemple. On a fait un café avec la police, la Direction nationale de la police. Et durant ce café, il y a le directeur de la police qui a annoncé que les policiers n'ont pas le droit de contrôler les vignettes sans la présence d'un agent de la mairie. Et nous avons vu le buzz que ça a pu créer. Et beaucoup de citoyens aujourd'hui, beaucoup de jeunes, bien vrai qu'ils ont les vignettes, mais quand les policiers les demandent où sont votre vignette, ils demandent toujours où est l'agent de la mairie. Donc pour dire qu'il y a aussi une méconnaissance qui entoure ce secteur-là de corruption, les gens ne connaissent pas leurs droits. Comme je l'ai dit, c'était devenu quelque chose de très normal. Par exemple, quand il a dit ça, les gens pensaient qu'effectivement c'est le policier qui doit contrôler les vignettes. Et ça a été une surprise pour tout le monde dans la salle. Et quand les gens sont sortis, c'est ce qui a vraiment fait le boom. L'autre chose par rapport à la carte d'identité et au certificat de résidence délivré par la police. Beaucoup pensaient que la carte d'identité, le prix normal, c'était 5 000, que quand on vous demande de payer au-delà de 5 000, c'est ce qui est anormal. Mais quand il a annoncé que oui, effectivement, c'est ce que la loi dit, c'est 1 000 francs et tout, et qu'il s'est engagé à afficher ça. On a vu le problème que ça a créé entre nous, en J4, et certains commissariats, le problème que ça a créé entre nous et même des policiers qui s'arrêtent dans la rue et tout. Et vous voyez, donc du coup, pour vous dire que c'est la volonté politique qui manque et aussi la sensibilisation des citoyens. De plus en plus, quand on sensibilise les citoyens, quand ils sont au courant de leurs droits et de leurs devoirs, peut-être on arrivera un jour à mettre en place un système qui va devenir plus fort que les autres. Je prends aussi l'exemple de quelques mairies par rapport
au paiement. On va y revenir, vous pourrez développer cet exemple. Okay, ensuite. Mais Guindo, comment convaincre une personne entretenue par un corrupteur?
Au fait, il faudrait un mouvement social, mais en montrant les bons exemples. Je prends rapidement une anecdote. Et pendant la transition, un directeur, un militaire médecin avait été nommé à Gabriel Touré. quand il est venu, l'hôpital était endetté. Mais il a compris que, par exemple, le scanner, qui était à 50 000 francs, des gens arrivaient à passer, payer 10 000, 20 000 francs pour faire le scanner. Et en fin de journée, le scanner était utilisé par 100 personnes, mais il n'y avait rien dans la caisse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Tidiane l'a dit, il a mis un système électronique de comptage. Donc, au soir, le directeur sait exactement combien de personnes sont rentrées dans le scanner. Donc, logiquement, il doit avoir tel montant dans la caisse. Donc, quand il a mis ce système en place, il y a eu des hostilités, mais tous les soirs, le chiffre, le montant de la caisse était égal au nombre de personnes. Et avec ça, il a réussi à éponger les dettes, mais il a fait face aux hostilités jusqu'à ce qu'il a sauté. Donc, ce sont des exemples comme ça qu'il faut montrer aux gens pour dire Gabriel Touré fait un mois sans scanner parce qu'il n'y a pas d'argent pour réparer le scanner. C'est parce que moi, au lieu de payer 50 000 francs, comme la loi le dit, je me suis laissé prendre au jeu de la corruption en payant 10 000 francs qui va dans la poche de quelqu'un. Quand on dit aux gens, quand vous évitez la corruption, vous permettez de ne pas manquer de scanner pendant un mois, ça peut permettre à certaines personnes d'adhérer au combat. Et ce mouvement social va faire que même les corrompus verront que aujourd'hui, c'est vrai, je suis entretenu par un corrompu, mais ça fait mal peut-être à 100 personnes de mon village.
Quand mais est-ce que ça l'inquiète? Est-ce qu'il ne s'inquiète pas beaucoup plus de sa propre personne que des 100 autres personnes?
Souvent, il est victime de quelque chose, mais il ne sait pas que c'est à cause de la corruption, par exemple. Par exemple, tu vas dans ton village, il n'y a pas d'eau potable. Peut-être que l'argent qui devait servir à creuser le forage a été détourné. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais si on montre ces exemples. Or, tous les jours, cette personne peut-être envoie 200 000 francs pour soigner son parent qui est malade parce qu'il consomme de l'eau impropre. Or, son village devait avoir un forage qui est parti dans la corruption. Donc, ce sont ces bons exemples qu'il faut montrer. Et comme madame l'a dit, susciter le débat, c'est-à-dire faire venir les acteurs, les pousser à dire aux gens, éduquer les populations. C'est ça. Et les réseaux sociaux. On a vu des jeunes qui sont allés dans des commissariats, dans des caps. J'ai vu au décap de Calaban, au cap de Calabancroix, la dame réclamait 500 francs par élève pour récupérer leur attestation. Mais le jeune courageux qu'il est, il a fait une vidéo pour dire, je suis en direct dans le cap de Calabancroix, la dame me demande 500 francs. Or, l'attestation est gratuite. Elle a tellement paniqué qu'elle n'a pas vu au fait la caméra, elle n'a pas dit au petit, ne le filme pas. Elle a commencé à faire des révélations. C'est mon chef qui m'a dit de prendre les 500 francs. Donc ça fait un buzz. Et une semaine après, on a vu la lettre circulaire du ministre qui dit, toutes les attestations sont gratuites. Donc ça permet souvent, même si souvent il y a des hostilités à passer dans certains caps, selon nos informations, des caps continuent à prendre de l'argent, mais ça règle le problème en tout cas dans les centres-villes, dans les agglomérations, mais dans les villages encore on continue à prendre de l'argent.
N'est-ce pas plus un problème de manque de sanctions qu'un problème de manque de sensibilisation, puisque certains estiment que difficile de trouver aujourd'hui un Malien qui n'est pas conscient des conséquences de la corruption?
Non, les gens ne sont pas véritablement conscients des conséquences. Ça, s'il y a une chose qui est certaine, c'est ça, les gens n'ont pas forcément conscience des conséquences. Par contre, je ne pense pas non plus que venir tout de suite dire « oui, on sanctionne tout le monde n'importe comment », ce n'est pas la formule, parce que quand on essaie de sanctionner, ceux qui sanctionnent sont potentiellement corrompus. Donc, en un moment donné, ils vont arrêter de sanctionner pour quelque chose en retour. Ce qu'il faut, il faut que le citoyen comprenne que c'est mieux vaut se suicider que d'aller corrompre. Il faut qu'ils comprennent parce que ça, c'est la même chose en fait, c'est l'équivalent. Corrompre, c'est se suicider. Il faut que les citoyens comprennent cela. Dans l'exemple de Ablaye, et même l'exemple aussi que Adam donnait tout à l'heure, c'est clair. Tu au lieu de payer, tu refuses de payer correctement, tu donnes de l'argent, tu fais les dessous de table. Donc, l'entretien pour des infrastructures sanitaires ou de l'infrastructure éducative ne se fera pas correctement. Et donc, quand tu viendras, on fait des analyses, les résultats des analyses sont forts, et c'est ce qui va te conduire tout droit vers là où personne ne voudrait pas aller immédiatement. Donc, moi, je crois que c'est d'abord là la question. Il faut que les gens prennent conscience que c'est important. Deuxième élément, il faut que les gens soient courageux. Moi, je pense que l'État, c'est aussi le citoyen d'abord. Quand un policier te siffle, il faut être courageux, lui dire « je ne paye pas, garde la voiture si tu veux, mais moi, je ne payerai pas ». Et il faut également qu'on arrête de payer dans la circulation. Un policier qui te siffle, qui te dit « oui, bon, écoute, je prends ta clé, de quel droit il prend la clé ?» Ou tu pars dans une administration, on te dit de faire certains types de paiements, que tu fasses ces paiements dans ces endroits-là. Ce n'est pas l'endroit. C'est ce que j'expliquais en fait en disant qu'il faut couper l'opportunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'opportunité pour que les gens fassent la corruption. Il faut couper ça. Maintenant, quand ça c'est coupé, à ce moment, on amène les systèmes de contrôle. Aujourd'hui, on a tellement de systèmes de contrôle que finalement, ça pose un souci. Maintenant, vous avez posé une question qui était très, très intéressante à mon avis. C'était que... est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité dans la mise en place des technologies pour
la piraterie?
La piraterie. Mais attends, il n'y a aucun problème. S'il s'agit de l'argent en termes de finances, le blockchain existe aujourd'hui qui garantit la sécurité des transactions. C'est un système très, très avancé. Il y a plein de jeunes Maliens qui sont formés à ce type de technologie, qui peuvent contribuer au niveau de l'administration à mettre en place des solutions comme ça. Chez Twindy, quand on a développé la plateforme Judith, qui n'est pas encore officiellement lancée, bon, après, on peut dire, ceux qui nous écoutent maintenant sont les premiers à le savoir, ce type de système informatise systématiquement donc ça, la chaîne des valeurs judiciaires. Et donc... Et toute la transaction à l'intérieur, c'est de la transaction basée sur le blockchain. Donc, la question n'est pas la sécurité. La question, c'est le courage de le mettre, la volonté du citoyen d'abord de tenir tête au corrupteur au niveau de l'administration, de lui dire « je ne paye pas ».
Et je reviens sur ce que Guindo disait, qui est qu'aujourd'hui, une bonne partie des gens qui gèrent l'administration sont également corrompus. Alors, quelle preuve que les gens qui vont gérer ce système d'informatisation ne seront pas également des gens corrompus?
En fait, ils ne géreront que ce qu'ils peuvent gérer. Le système gère le reste. Il faut juste qu'on prenne conscience de cela. Souvent, quand on fait l'informatisation à outrance, certaines personnes, mais il y a plein de gens maintenant qui ont pris l'habitude de dire qu'on retire le boulot des hommes pour le donner à des machines. On ne retire pas le boulot des hommes pour les mêmes. Mais un système doit être suffisamment intelligent pour bloquer certaines choses. Ça, c'est évident. Et chaque acte que chacun doit poser dans le système doit être systématiquement traçable. Et pour cela, il faut accepter de pousser le niveau d'informatisation que nous avons actuellement. Moi, je vois tous les véhicules équipés de balises et les feux tricolores équipés de balises. Donc, tu passes pendant que le feu est au rouge, il n'y a pas de souci, continue ton chemin. La contravention te trouvera à la maison. Et ça, on n'a pas besoin de payer cher un texto, un simple SMS. Les opérateurs de télécommunications, ils peuvent contribuer à cela. Et on a la GFO qui est supposée aussi contribuer pour qu'on puisse avoir plus de couverture, avoir plus d'accès. Auparavant, on pouvait dire que techniquement, c'est difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas une excuse. Il y a la 4G, ça file très, très vite. On est en train de foncer bientôt vers la 5G.
Est-ce que ça file très vite au Mali?
Non, ça file très vite. Le débit, nous, on teste régulièrement. Je ne dis pas dans toutes les régions. Mais dans tous les cas, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des solutions qui demandent des bandes passantes extrêmement élevées. C'est des capteurs qui sont implantés simplement. Quand souvent, c'est pas vous, personne n'allume les lampes de circulation, ça s'allume automatiquement. Et il y a tellement de capteurs qui existent qui peuvent simplement lire les balises des véhicules. Chaque véhicule communique avec la circulation. On va dire que ça, c'est des rêves, on va dire que ça, c'est pas réaliste, ce truc. Mais c'est pas des rêves, c'est des choses qui se font tous les jours qu'on peut rapidement mettre en place. En les mettant en place, l'avantage, c'est quoi? On va contribuer à lutter contre la corruption, on va créer de l'emploi et on va créer de la compétitivité technologique au niveau national et sur-régional. Et finalement, on va arriver à résoudre beaucoup de choses simultanément. Pourquoi quelqu'un doit aller payer de l'argent devant l'hôpital? Tu ne dois pas le faire.
Où est-ce qu'il doit le faire?
Il faut simplement être capable de payer cet argent directement depuis ton téléphone en ligne, soit directement à la banque, soit au niveau de
Mais ça risque de poser problème pour des personnes non alphabétisées, par exemple. Et je pose la question à Adam Diko. Oui.
Mais vous savez, moi,
juste pour écrire le temps de parole, je vous donnerai la parole tout de suite. Adam. Oui.
Alors et effectivement, en fait, ça, c'est des mesures progressives qui se font petit à petit. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement prend directement une décision pour dire désormais, tous les paiements au niveau, que ce soit au niveau de l'hôpital, au niveau des écoles et tout, il faut passer par la banque et autres. Ça peut créer d'autres problèmes parce que la bancarisation du pays est à un niveau assez bas ou peut-être l'accès au réseau téléphonie aussi, c'est pas sur toute l'étendue du territoire. Mais quand même, c'est des mesures qui peuvent aller petit à petit. C'est-à-dire, dans les zones où c'est possible, pourquoi ne pas commencer avec ces zones-là? Encore une fois, je reviens sur la question, est-ce que la sanction aussi n'encourage n'encourage pas
le manque
de sanctions aussi n'encourage pas la lutte contre la corruption. Oui, effectivement, parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, tout le monde est encouragé à faire ce que tu veux. Aujourd'hui, les gars, ils te demandent de l'argent, tu dis tu ne payes pas. Ils te disent, c'est votre directeur qui a dit ça. Il te dit, va dire au directeur que moi, j'ai dit que tu payes. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et ça, c'est relaté tous les jours sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple des vignettes où il y a des gens qui demandent carrément, allez-y dire au directeur que nous, on a dit que vous payez les vignettes. Ça remonte. Après, il n'y a rien. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a rien. Ce même gars qui l'a dit le lundi, le vendredi, encore, il est là. Il répète la même chose. Et pourtant, le directeur, il est au courant. Il a été informé et tout. Mais il n'y a pas de sanctions. Donc, souvent aussi, il y a de la démagogie dans les discours. C'est-à-dire souvent, quand on fait venir des acteurs ou des responsables, les discours qu'ils tiennent devant nous et les actes qui se font, au fait, souvent vous avez de ces responsables qui vous disent clairement que ça s'est fait, je n'étais pas au courant. Et pourtant, non seulement ils sont au courant, mais ils profitent aussi du système. Donc du coup, on fait croire aux citoyens comme si nous on n'était pas au courant. Souvent, il faut aussi remonter l'information. Mais même quand l'information est remontée, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Mais il faut que les citoyens osent aller au-delà de ça. Il y a une personne qui a été arrêtée l'autre jour. Les policiers lui ont arrêté. Ils ont dit qu'il n'avait pas allumé ses phares. Donc de payer. Il a demandé le reçu. On a dit non, celui qui a le reçu est sorti. Ok, il a attendu. Pendant 30 minutes, la personne n'est pas venue. Pendant une heure de temps, il est revenu. On dit non, on t'a dit que celui qui a le reçu est sorti. Donc si tu veux le reçu, tu l'attends. Il a demandé quand il revient quand. Il dit non, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais quand même il est sorti. Donc le monsieur, il a laissé sa carte grise, il est parti à la maison. Et le lendemain, il est parti au commissariat pour payer. Il a vu que défaut de phare, nous on lui a dit clairement, défaut de phare, ça te coûte moins de 1000 francs. Vas-y, va récupérer. Il est parti, il a payé 300 francs, il a récupéré son reçu, il a récupéré sa carte grise. Maintenant, et pourtant, les policiers lui avaient demandé combien? Ils lui avaient demandé 2000 francs de donner ça pour qu'il passe. Donc souvent, ça, c'est des choses aussi que les citoyens doivent savoir. Pour les cas des vignettes et autres, on a dit aux gens, osez, allez-y porter plainte et faites de la communication autour de ça. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les radios, nous avons la télé. Osez parler de ça. Ne vous dites pas seulement si ça arrive à une Adam Diko ou à une Tidjane, ils sont connus, on peut parler.
Et concernant les nouvelles technologies, voilà. Est-ce que le citoyen lambda maîtrise ces applications, quand je cite par exemple Kafoko ou Laïdou, est-ce qu'ils peuvent les utiliser?
Avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à ce que Tidjane a dit. Quand vous avez posé la question de savoir est-ce que les citoyens corrompus gèrent le système? Au fait, le système se gère lui-même. Je prends un exemple. Dans une entreprise privée au Mali, j'y suis allé un jour, j'ai vu que le pointage est électronique. Mais avant le pointage électronique, le gars, il se réveille à 10h, il dit au gardien, écris mon nom dans le cahier, mets 7h40, je te donne 500 francs. Mais avec le gardien est là, mais le gardien n'a plus accès au système informatique. Tu viens à 7h, tu mets ton empreinte, c'est la machine qui dit que Abdoulaye Guindo est venu à 7h45. Donc, bien que le gardien soit corrompu, il n'a pas accès au système. Je prends le cas du passeport. Moi, j'ai fait un passeport avant le système biométrique et dans le système biométrique. Tu vas payer en espèces, c'est tout un tas de poulons. On te dit de payer 80 000. Mais aujourd'hui, que tu sois intellectuel ou pas, tout le monde va à la banque, tu payes 55 000 francs 21 jours. Tu viens, tu ne payes aucun franc au policier. Tu déposes ton passeport 21 jours, tu viens récupérer ton passeport. Maintenant, par rapport à l'application, aujourd'hui, toutes nos mamans, nos frères qui ne sont pas allés à l'école, mais ils utilisent WhatsApp. Ils utilisent les téléphones WhatsApp. Mais c'est en 30 secondes. L'explication d'utilisation de ces applications, c'est en 30 secondes. Maintenant, la question qu'il faut poser, est-ce qu'on aura suffisamment de moyens, de temps, de répartir des formateurs dans ces locaux? Sinon, en 30 minutes aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à la locale pour utiliser un téléphone Android. Il suffit de former les gens en 30-40 minutes. Paf, c'est parti, les gens vont l'utiliser.
Mais ça va concerner mais toujours là, les centres urbains, surtout que pas ceux les zones rurales.
Je parle sur le contrôle. Ouais. Ceux qui développent les applications, ils mettent maintenant l'option vocale, qui est plus facile à utiliser que l'option écrite.
Mais ça reste toujours que ça doit être utilisé avec de la connexion Internet.
Oui, aujourd'hui c'est vrai, le taux de pénétration d'Internet est faible, mais c'est assez satisfaisant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui de localité de village où il n'y a pas Internet.
D'accord. Tidjane estime que c'est possible de les utiliser sans connexion Internet.
C'est possible
de
les utiliser.
Il y a certaines plateformes.
Voilà, il y a plein de plateformes qui s'utilisent sans connexion Internet. Kakofo, je connais très bien Kakofo parce qu'on a incubé le projet, on continue de maintenir le projet. Et ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle les low-tech, les technologies qui sont à un certain niveau, qui n'ont pas besoin d'une grosse connectivité ou qui n'ont même pas besoin de connexion Internet. Moi, je vais beaucoup plus loin que ce que Ablaye disait parce que c'est ce qui est la réalité. Si vous avez un parent qui se trouve dans un village où il n'y a pas de connexion Internet, qu'il vous demande de l'envoyer 1000 francs que vous dites que ah bon, vous ne savez pas comment envoyer ça, il va vous dire d'utiliser les paiements mobiles, les technologies de paiement mobile, soit de l'un des trois opérateurs. Il vous demandera forcément d'utiliser ça. Et pourtant, personne un jour ne s'est assis à côté de ces personnes-là pour apprendre à utiliser le paiement par téléphone mobile. La question, c'est quoi? La question, c'est est-ce qu'on veut véritablement utiliser les technologies pour lutter contre la corruption ou on ne veut pas le faire? C'est simplement ça. On peut utiliser le SMS, on peut utiliser la voix, hein, et on n'a pas besoin d'Internet. C'est-à-dire que vous prenez, l'État peut décider aujourd'hui de dire « je mets une ligne verte ». En d'autres termes, c'est l'État qui va payer pour les communications aux opérateurs, mais le citoyen ne paye rien. Donc, le citoyen, il prend, il appelle sur la ligne verte et il transmet son message, soit pour dénoncer, soit pour... Cacofo est un exemple.
D'accord,
concret.
Justement, parlez-nous de Cacofo, dernier tour de table, pour parler de ces différentes applications. Cacofo, de quoi est-ce qu'il s'agit?
Donc, Cacofo, en fait, est une application mobile qui est à la fois vocale, qui permet de dénoncer les cas de corruption, notamment liés aux tracasseries sur les routes, au niveau de trois corridors principalement, mais après qui peut être utilisé sur d'autres corridors, que ce soit au niveau de Sikasso, Kuchala. Donc, en fait, Cacofo, c'est une application comme ça. Il tourne à la fois en français, mais aussi en Bambara. Et donc, dans les jours à venir, ça devrait pouvoir s'élargir sur d'autres langues, quoi.
Et voilà. Donc, ça veut dire qu'un citoyen qui est victime de tracasserie routière peut dénoncer à travers cette application.
Exactement. Donc, un citoyen victime de tracasserie routière, d'abord, il faut juste l'installer sur son téléphone. Et ensuite, vous dénoncez, si jamais vous êtes victime, vous dénoncez. Et en dénonçant la position où l'incident s'est passé et tout, il y a une équipe qui sera immédiatement en contact avec vous et on essaiera de décanter la situation. Donc c'est fonctionnel, c'est téléchargeable gratuitement sur Play Store.
D'accord. Et l'Aïdou?
Alors l'Aïdou, mais je veux venir aussi sur Cacofo parce qu'on travaille aussi avec Twindy dans le cadre de ce projet. Alors Cacofo, effectivement, comme il l'a dit, les gens, ils dénoncent des cas de corruption et nous avons des bureaux de plaidoyer citoyens qui sont appelés des BPC, qui sont à Sikasso et à Kuchala. Donc dès que les plaintes sont reçues, donc il y a une équipe, c'est-à-dire les BPC, qui contactent directement la personne qui est témoin ou qui est victime de corruption pour prendre les informations et relayer ces informations soit au niveau de la police, soit...
Et l'Aïdou maintenant?
Alors l'Aïdou, c'est une plateforme qui permet vraiment de suivre les engagements politiques, les promesses politiques et tout, parce qu'on a vu que pendant les campagnes, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de projets de société et autres, mais une fois que ces candidats élus, les citoyens n'ont plus accès à ces projets de société. Donc l'Aïdou permet aux citoyens de pouvoir lire encore les projets de société de ces candidats pour leur dire, écoutez monsieur le président, pendant la campagne vous avez mis dans votre projet de société que vous allez faire ça.
C'est en français seulement ou en Bambara aussi?
Alors l'Aïdou pour le moment c'est en français. L'Aïdou permet aussi de suivre la mise en œuvre des politiques publiques.
D'accord, rapidement, Ebembéré.
Oui, bon, nous, c'est juste des articles, des petites vidéos de dénonciation que nous faisons avec des privés à l'appui. C'est notre contribution. On ne développe pas d'application, mais on a juste une plateforme web en ligne qui permet aux jeunes blogueurs, influenceurs de dénoncer des cas de corruption et proposer en retour aussi des solutions technologiques de lutte contre. Et voilà pourquoi même Cacofo et la plateforme, on a eu à relayer ces articles pour expliquer aux gens qu'il existe des plateformes sur lesquelles ils peuvent aller dénoncer et contribuer.
Donc vous êtes également dans la sensibilisation. Merci beaucoup. Comment les technologies peuvent contribuer dans la lutte contre la corruption au Mali. C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Et nos invités, Tidiane Itogola, directeur de la Fondation Twindy, Abdoulaye Guindo, coordonnateur de la plateforme Bembéré, et Adam Diko, directrice exécutive de Agicad Mali. À la régie vidéo et audio, Salim Djouara et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.